de philosophie éthique par le père Philippe Saint-Jodin, le 22 avril 1988.
Pouvez-vous expliquer le lien entre la révérence et l'adoration? L'adoration implique le sacrifice. Révérer quelqu'un, c'est de l'ordre beaucoup plus du respect. Révérence, c'est respecter la dignité de quelqu'un. C'est un acte bon qui, de fait, est dans les lignes de respecter les droits et la majesté de quelqu'un, son excellence. Vous révérez quelqu'un. Donc c'est le laisser passer devant, si vous voulez. Je crois que c'est ça le point de vue de la révérence. L'adoration va plus loin, puisque c'est révérer quelqu'un qui est mon créateur. On n'adore que Dieu. Donc c'est reconnaître à l'égard de Dieu une attitude de respect qui engage tout mon être. C'est tout moi-même qui me soumet à Dieu dans l'adoration. C'est tout moi-même qui me met en relation de soumission et de dépendance à l'égard de Dieu, reconnaissant cette dépendance et l'aimant. Je reconnais que Dieu est premier, et je l'adore, je le laisse passer devant. C'est ça le propre de l'adoration. Donc dans tout acte d'adoration, il y a un amour. Remarquez que dans la révérence, il y a un amour aussi. Mais un amour qui est très pris par le point de vue du respect. Vaut-il mieux respecter quelqu'un ou l'aimer? Vous savez, vaut-il mieux craindre quelqu'un ou l'aimer? La révérence peut conduire à la crainte. Et la révérence peut conduire à l'amour et à l'adoration. Vous pouvez avoir une telle révérence vis-à-vis de quelqu'un que vous avez une crainte vis-à-vis de lui. Vous avez peur vis-à-vis de lui. Et vous pouvez aussi avoir une révérence telle que, en réalité, vous reconnaissez un lien avec lui et un lien d'amour. L'adoration va plus loin que la révérence. Et l'adoration implique le sacrifice. C'est-à-dire, pour que l'adoration soit parfaite, il faut le sacrifice. Parce que je reconnais que tout mon être est en dépendance de Dieu. Intérieurement, l'adoration n'a pas besoin du sacrifice. Mais pour que le sacrifice, pour que l'adoration se manifeste, que tout ce qui est en moi est relatif à Dieu et soumis à Dieu, il faut le sacrifice. Le sacrifice manifeste d'une manière communautaire l'adoration intérieure. Sacrifice est communautaire. C'est parce que j'appartiens à une communauté qu'il faut le sacrifice. Je serai un pur esprit, dirait l'adoration. Est-ce que les anges ont-ils le sacrifice? Ou n'ont-ils que l'adoration? Leur adoration est un sacrifice intérieur. Et l'adoration est un sacrifice intérieur. La reconnaissance de la dépendance totale de ma volonté, de mon intelligence à Dieu. Alors à ce point de vue-là, il y a un certain sacrifice de ma liberté. J'offre à Dieu des quantités de choses que je pourrais faire et que je ne les fais pas parce que je veux adorer Dieu. Je veux laisser Dieu passer devant. Oui. Et alors le sacrifice manifeste cet absolu de l'adoration. Ma vie est entre les mains de Dieu. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu, J'offre à Dieu le petit bouc, la grosse vache et le gros taureau. Je l'offre à Dieu pour manifester que toute ma vie est en dépendance de lui et dépend de lui. Oui, je la manifeste symboliquement. C'est un geste symbolique. Le sacrifice peut être symbolique. L'adoration ne peut pas être symbolique. L'adoration est intérieure. Tandis que le sacrifice implique quelque chose de symbolique, c'est communautaire. Tout ce qui est communautaire peut être symbolique. Tandis que ce qui est tout à fait intérieur ne peut pas être symbolique. On ne peut pas dire j'ai fait un acte intérieur symbolique d'adoration. On dirait qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un acte intérieur symbolique d'adoration. Mais un acte intérieur n'est pas symbolique. Un acte intérieur demande d'être vrai. Se conformer à la mesure de cet acte. Et la mesure de cet acte, c'est la majesté souveraine du Créateur. J'espère que vous voyez. Si l'amour fonde la morale, source de la responsabilité avec le devoir, et si elle étudie l'homme dans sa recherche du bonheur, comment, dans une éthique religieuse reposant sur l'adoration, qui n'implique pas immédiatement l'aspect affectif, peut-on encore parler d'éthique? Eh bien justement, c'est l'erreur, c'est que l'adoration implique quelque chose d'affectif. L'adoration est un acte volontaire. J'adore Dieu parce que je veux l'adorer. Et je crois qu'on peut toujours vouloir adorer Dieu, même si on souffre. Quelqu'un qui me dit « je ne peux plus adorer Dieu », je dis « c'est faux ». C'est le démon qui vous fait croire ça, c'est imaginatif. Vous pouvez toujours adorer, mais évidemment, quand vous êtes terriblement angoissé, vous êtes dans une attitude de quelqu'un qui ne sent plus sa volonté. Mais la volonté n'est pas détruite à cause de ça. Et ce serait justement le salut de ceux qui se disent angoissés, d'obéir et de vouloir faire tout leur possible pour adorer. Et dès qu'ils font un acte d'adoration, ils seraient sauvés de leur angoisse. Mais je comprends que c'est pas commode. Et on doit tout le temps réaffirmer, même quelqu'un qui se dit angoissé, on doit lui dire « vous devez adorer ». Et l'autre répondra « je ne peux pas ». Elle dit « oui, votre volonté existe encore, elle est inhibée. Elle est inhibée, vous la croyez complètement inhibée. Vous la croyez complètement, mais elle existe. Réveillez-la. » C'est très très important de comprendre ça. Alors, vous comprenez, je reprends. La morale, tout court, repose sur l'amour. La morale humaine repose sur l'amour d'amitié. Cette morale humaine implique une extension dans la morale religieuse. La morale religieuse ne peut pas exister sans la morale humaine. Et donc, le fondement demeure toujours l'amour. Mais le fondement proche de l'éthique religieuse, c'est l'adoration, qui est l'expression de mon amour à l'égard de Dieu. J'aime Dieu comme un pauvre. J'aime Dieu comme un tout petit qui a tout reçu de lui. Et donc mon amour n'est pas très explicite, très développé. L'aspect de soumission et l'aspect de m'être relatif à lui l'emporte, mais c'est quand même baigné d'amour. Il y a une double raison pour laquelle l'amour demeure le fondement de la morale. C'est que la morale religieuse présuppose la morale humaine. Et ne peut pas se développer sans la morale humaine. Comme la morale chrétienne présuppose la morale religieuse et la morale humaine. Et à la différence, c'est que la morale chrétienne repose sur un don de Dieu. Et donc il peut y avoir une morale chrétienne avec un aspect très embryonnaire de la morale religieuse et de la morale humaine. Ce qui existe chez les handicapés. Il peut y avoir une très grande foi et très très peu de prudence. Très très peu d'actes éthiques religieux. Et très peu d'actes humains. Le support pour notre vie chrétienne est très faible comme condition nécessaire. Et ça, nous avons beaucoup de peine à comprendre. Surtout quand on est en pleine santé. Vous voyez, on ferait facilement de l'aspect humain, la détermination de l'aspect divin. Or, l'aspect humain, morale humaine et morale religieuse, ne sont que des conditions et non pas des déterminations. Le Christ achève la loi, mais le Christ ne dépend pas de la loi. J'espère que ça, vous arriverez petit à petit à le comprendre. Très important, ça nous libère beaucoup, ça, vous savez. Parce que ça nous fait comprendre que même si on est des très pauvres types, on peut encore aimer Dieu. Et que si on est des très pauvres types, on peut encore s'engager dans la vie religieuse. Parce que constamment, on dit la vie religieuse n'est pas faite pour moi. Pourquoi? Parce que je suis faible. Mais c'est justement pour ça qu'elle est faite pour vous. Et c'est comme le petit arbre qui dirait « Ah, non, non, pas de tuteur. Il est trop gros, il est plus gros que moi. Donc je ne suis pas fait pour être à l'ombre du tuteur. Mais vous en avez besoin parce que vous êtes faible. Quand vous serez gros comme le tuteur, vous n'avez plus besoin de tuteur. La vie religieuse, c'est le gros tuteur. C'est la grosse barricade. Encore, hein. Vous voyez bien, mais la vie religieuse avant, quand il y avait des murs de 3 mètres, clôture papale, puis vous mettiez le petit insecte dedans. C'est clôture papale énorme. Non. Et ça, on fait ce raisonnement-là constamment. C'est psychologique, ça. C'est du psychologisme. Je suis faible. Et j'arrive même pas à aimer. Avoir une morale humaine stoïcienne, donc je ne suis pas fait pour la vie religieuse. Eh bien non, c'est deux choses différentes. Votre vie religieuse est déterminée par les vertus théologales, et pas par vos vertus humaines. Elle est déterminée par vos vertus théologales, elle est déterminée par le Christ. C'est le Christ qui détermine votre vie théologale. Et votre vie théologale, petit à petit, porte votre vie religieuse et porte votre vie humaine. Et il lui permet de se développer. Il y a un minimum, vous voyez, un minimum. Évidemment, un minimum de développement humain et développement religieux. Comme pour les handicapés. Un minimum. Qui n'est pas commun du reste à déterminer. Il se détermine à l'usage. Bon, pas savoir d'avance. Pas mesurer ça. Ça ne se mesure pas. Alors, vous voyez bien, je reprends. Si l'amour fonde la morale, source de la responsabilité, et si elle étudie l'homme dans sa recherche du bonheur, comment, dans l'éthique religieuse, reposant sur l'adoration, qui n'implique pas immédiatement l'aspect affectif, je dis non, qui implique immédiatement l'aspect volontaire, donc l'affectivité spirituelle. Mais on ne sait plus ce que c'est que l'adoration. L'adoration est un acte d'amour à l'égard de Dieu. Vous aimez Dieu en adorant. Comment peut-on dire avec la créature? Comment peut-on dire, pardon, comment peut-on dire que la créature peut être responsable grâce au Créateur? Il n'y a plus de réciprocité comme dans l'amour d'amitié. C'est vrai, et il y en a une certaine. Il y en a une certaine. Parce qu'on sait que Dieu nous a aimés le premier. Et nous, nous répondons. C'est bien la réciprocité. Si Dieu nous avait créés par nécessité, si Dieu nous aimait uniquement parce que nous l'adorons, alors je comprendrais. Mais c'est l'inverse. On adore Dieu parce que Dieu nous aime. Et c'est notre réciprocité. Donc il y a une certaine réciprocité. Une réciprocité dans l'inégalité totale. Une certaine réciprocité. C'est parce que je suis enveloppé d'amour que j'adore. C'est parce que je suis saisi par l'amour que j'adore. Autrement je ne pourrais pas adorer. Est-ce que ce sera encore l'adoration? Donnez-moi un exemple.
Bon, je pense à l'être avec la réincarnation.
Ah oui, mais c'est plus une religion, c'est un succès d'année. C'est un succès d'année. C'est la superstition, c'est une erreur.
Oui, mais il n'y a pas d'adoration.
Non, il ne peut pas, là. Elle est abîmée, l'adoration. Même s'ils adorent le soleil. Adorer le soleil, c'est aimer sa chaleur. Je ne peux pas prendre à partir, vous voyez, je fonde ma philosophie, même sur des actes imparfaits, mais des actes réels. Alors, je suis bien obligé de reconnaître que la superstition, par exemple, me fera faire des actes d'adoration qui seront abîmés, qui ne seront plus de vrais actes d'adoration. Mais la superstition qui consiste nécessairement à prendre de l'eau bénite. Parce que quoi ça se loge là, les grenouilles d'eau bénite. Alors ça se loge là, la superstition. Si je ne prends pas d'eau bénite, ah, je ne pourrais pas prier. Non, c'est pas vrai. Mais prenez de l'eau bénite. C'est bien. Bonne tradition religieuse. Prenez de l'eau bénite et comprenez que l'eau bénite, c'est un appel à Dieu pour chasser le démon. Mais ne dites pas, si je prends pas d'eau bénite, ma prière sera complètement faussée. Vous voyez ? Toujours le conditionnement qui devient une détermination. C'est pas vous qui dites ça, mais c'est que ça se dit. C'est tout le temps ça, c'est pour ça que c'est si important de préciser la détermination et le conditionnement dans tout acte humain. Le jour où vous aurez vraiment saisi ça, vous échappez au psychologisme, vous échappez à une quantité d'erreurs modernes et vous arrivez à analyser. Bon, continuons. On était arrivé, je crois, à l'humilité, comme c'est très long à acquérir. Je vous avais dit, je crois, que grâce au mystère de la création, il faut à se regarder chacun d'entre nous dans la lumière de la création, on commence à comprendre la naissance de l'humilité, un acte humble. Un acte humble, c'est regarder dans le voisin quelque chose que je n'ai pas. Dans chacun de mes voisins, je peux découvrir quelque chose que je n'ai pas. Pas au niveau physiologique, pas au niveau de sa figure, pas au niveau de la couleur de ses cheveux. Ce serait déjà vrai, là. Mais au niveau beaucoup plus profond, au niveau de ce qu'il est comme personne. Et dès que je reconnais que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, je laisse passer devant moi. Et donc, je fais un premier geste d'humilité. Parce que la non-humilité, c'est de toujours vouloir être premier. Dans tous les domaines, je veux être premier. Premier dans le sport, premier en métaphysique, premier en éthique, premier, tout le temps. On érige ça comme un absolu. Ça, c'est l'orgueil. On n'accepte plus que quelqu'un d'autre. Et si par hasard on dit quelqu'un est passé devant moi, on me considère alors à ce moment-là comme un rival. Qu'il faut supprimer. Oui, l'orgueil dans le sport, dans les matchs. Et il faut à tout prix, arriver. On voit très bien ça. Parce que il y a une certaine rivalité, et la rivalité peut prendre une tournure d'absolu, et à ce moment-là, on sait ce qui se passe. Donc l'humilité, fondamentalement, repose sur ce fait que nous sommes tous dépendants d'un être premier qui a créé en nous une âme. Et cette âme, dans ce qu'elle a de plus radical, dépend de lui. Et cette âme a, pour chacun d'entre nous, une individualité propre qui permet à l'âme tout de suite de se développer dans un sens qui est unique. Et chacun d'entre nous, il y a quelque chose d'unique. Et l'humilité consiste à le voir tout de suite, alors que l'orgueil fait juste l'inverse. Dans l'orgueil, je regarde les autres à travers mon prisme. Tandis que dans l'humilité, je regarde l'autre pour lui-même, tel qu'il est. Vous voyez le réalisme. Et comment le réalisme philosophique aide l'humilité, alors que l'aspect phénoménologique aide l'orgueil. C'est sûr, regarder tous les autres à travers moi. C'est un miroir déformant. Certains, je les trouve trop grands. D'autres, je les trouve trop petits. Pas dans l'ordre quantitatif, mais dans l'ordre spirituel. Je les trouve beaucoup trop grands. Alors je dis, ils exagèrent. Vous savez, quand quelqu'un dit, ils vont trop loin. C'est trop dur, le noviciat. Ça va pas. Quelle est votre mesure, monsieur? C'est trop dur. Quelle est votre mesure? Est-ce que c'est vous? Ils sont coincés. Ils montrent que leur langage ne signifie rien. Parce que dire que c'est trop dur, ça prouve qu'on a un barème. Et le barème, c'est qui? C'est le moyen. L'être le plus équilibré du noviciat. C'est à partir de lui qu'on doit prendre la mesure. Alors si le barème, c'est le Christ crucifié, vous pouvez me le dire, c'est trop dur. Vous pouvez dire, j'y tends, c'est pas commode. Parce que quand on me dit ça, moi je renverse les choses, je dis, dites, c'est très exigeant. C'est pas trop dur. Trop dur ne signifie rien. Ça veut dire que vous êtes mis barème de l'effort chrétien. Et vous mettez donc à la place du Christ. Et une petite orgueil qui pousse. Très très important ça, parce que ça voit tout de suite ça. Ça se dévoile tout de suite. Dites, je suis poussif. J'arrive pas. J'arrive un quart d'heure, mais après non, non. Premier quart d'heure de la journée, ça va. Second quart d'heure, c'est déjà pas commode. Parce qu'on est à la chapelle, hein. Alors c'est pas commode. Alors après, c'est de plus en plus difficile. Et le soir, je suis complètement dans la vaseline. Ça va plus, oui. Alors, le barème, c'est qui? C'est le Christ crucifié. Pour une éthique religieuse, pour une éthique chrétienne, oui. Pour une éthique religieuse, c'est l'adoration. Et pour une éthique humaine, c'est l'amitié. Donc, l'humilité, c'est quelque chose de très grand, et je crois que l'humilité ne peut exister. Des actes humbles ne peuvent vraiment exister que dans la lumière du mystère de la création. Seule la création me permet de comprendre ce que représente une éthique religieuse, d'où naît l'humilité. Je crois que cette humilité n'existe explicitement et formellement comme acte vertueux, comme acte bon, que dans la lumière de la création. Parce que vis-à-vis de l'ami, on est respectueux. Je ne peux pas dire que je suis humble à l'égard d'un ami, au sens fort. Parce que l'amitié tend à l'égalité, vous voyez. C'est assommant un ami qui tout le temps dit « Ah, mais tu es bien plus que moi, tu es bien plus que moi. » Vous voyez, c'est encore une manière très habile de revendiquer. « Ah, tu m'agaces parce que tu es toujours beaucoup plus intelligent que moi. » Alors que la véritable amitié, on est très heureux que l'ami soit très intelligent. Parce qu'on est l'ami de quelqu'un d'intelligent, donc ça prouve qu'on est intelligent. Parce que les amis tendent vers l'égalité. Oui, ça c'est le propre de l'amitié, c'est de tendre vers l'égalité. Idem valle, identité de vouloir. Donc c'est bien la création et l'adoration qui me met en présence du point de vue de l'humilité. Alors je peux regarder ensuite le désir de l'esprit de virginité. Dans la ligne de l'humilité, on pourrait voir l'obéissance tout de suite après. On peut mettre l'un ou l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. La virginité, l'esprit de virginité existe dans les éthiques religieuses. Alors qu'est-ce que c'est que l'esprit de virginité? L'esprit de virginité, c'est pas seulement la domination sur son corps. Ça, c'est la chasteté et la tempérance. La tempérance, c'est la domination sur son corps par rapport au petit déjeuner, par rapport à la confiture, par rapport à l'englument des desserts. Et c'est ça, le point de vue de la tempérance. La tempérance consiste à avoir un œil raisonnable vis-à-vis d'une montagne de confiture. Ou devant une espèce de dessert extraordinaire, merveilleux, étonnant. La tempérance consiste à rester calme et paisible quand on a très soif. Et que vous voudrez se précipiter. Vous voyez, c'est le concupiscible, hein, le concupiscible. C'est ça la tempérance. Ça s'acquiert. On devient tempérant. Au bout d'un an de noviciat, ça pousse. Parce que avant le noviciat, aujourd'hui, c'est rare, on ne sait pas très bien ce que c'est. Sauf encore, il y a encore des familles profondément chrétiennes dans lesquelles on a appris aux gosses de ne pas trop manger. Puis alors le gosse a fait des excès, il n'a plus. Et alors il est tombé malade, et alors à partir de là, on dit, puisque je suis malade, ah, on m'a dit de manger le plus que je pouvais. Non, sûrement pas. La maladie ne supprime pas la vertu de tempérance. Non, même quand je me repose, la maladie ne supprime pas la vertu de tempérance. Donc je dois changer la mesure, la modifier, au moins de la prudence. Mais la vertu de tempérance demeure. Et c'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais fatigué que j'ai le droit, à la face de l'univers, d'être un gouffre de confiture, de gâteau, de chocolat, de tout ce qu'on veut, vous voyez. Non, sûrement pas. On doit être attentif, mais la vertu demeure. Elle est au-delà de la santé, au-delà de la non-santé, parce qu'elle touche l'âme. Et l'âme n'est pas malade, c'est le corps qui est malade. Et donc ça doit demeurer. C'est très important, ça, vous voyez, pour voir si vous avez la vertu tempérance. Parce que ça demeure au-delà des conditions différentes. Je suis tempérant 3 jours par semaine, mais 4 jours par semaine, je ne le suis pas. Et je suis tempérant le vendredi, oui, le vendredi, parce que quand même. Et le mardi aussi, parce qu'on a dit que mardi et le vendredi, il fallait être tempérant. Alors je suis tempérant ces jours-là, mais les autres jours, je me rattrape. Mais c'est ça que je vous dis, ça, c'est pour essayer de comprendre ce que c'est que la vertu. Elle est intérieure. Elle n'est pas extérieure. Le dressage serait ça. Pour un animal, c'est un dressage. Tandis que la tempérance, elle est au-delà des conditions. Et du conditionnement. C'est la même chose pour dormir. C'est la même chose. Ça relève de la tempérance aussi. Parce qu'il y en a qui aiment tellement leur oreiller. Mais c'est Agathon dans Le Banquet. Vous savez, c'est l'homme qui voyage toujours avec son oreiller. Parce que dès qu'il peut, il s'étend. Tout de suite, là, il voyage toujours avec son oreiller. Alors ça, c'est encore un manque de tempérance, vous voyez. Un manque de domination de son corps. Nous sommes faits pour la tenue droite, comme dit le vieil Aristote. Et il y a une question de tenue. La chasteté, c'est une vertu aussi qui s'acquiert. On ne naît pas chaste. Et ça ne veut pas dire du tout, parce qu'on n'a pas eu de difficulté pendant un certain temps, qu'on est chaste. Non. La chasteté s'acquiert dans les luttes. Et c'est encore la domination du corps. C'est à l'égard de la domination du corps par rapport non plus à l'aliment. La vertu de tempérance, c'est l'aliment. C'est à l'égard de ce que représente l'instinct sexuel. Ce que représente le point de vue de tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'instinct sexuel. Et c'est la domination de cela en vue de garder sa finalité. Exactement la même chose que pour la chasse, que pour la tempérance. Je suis tempérant non pas pour le plaisir d'être tempérant. Je suis tempérant pour aimer plus. Et je suis chaste pour aimer plus. Alors là, il faut bien comprendre, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a quelquefois de la peine à bien comprendre ce que c'est que la vertu de chasteté à cause de ça. à cause des confusions que Freud a fait. Pour Aristote et saint Thomas, on a l'appétit sensible, donc passionnel. Les passions interviennent, l'appétit passionnel, à l'égard de l'aliment, à l'égard de la boisson, les deux. Donc l'appétit sensible à l'égard de la boisson et à l'égard de l'aliment, il y a une certaine joie, comprenons bien, il y a une certaine joie, une certaine jouissance à manger de bons aliments. Chacun d'entre nous, ça dépend lesquels. Si on est du midi ou du nord ou du milieu, c'est pas les mêmes. Vous voyez, les frites du nord, hein. C'est, les gens se jettent là-dessus, là, avec le saucisson, et le, bon, c'est quelque chose de très particulier, vous voyez. Là, c'est, et là, un homme du midi, de toute façon, non. La choucroute, vous voyez, ça fait partie de, certains appétits sensibles qui sont particulièrement développés depuis le début, parce que on leur a donné dès le début de la choucroute. La bière et le vin, vous voyez, ça dépend. Ça dépend, ça. Et puis d'autres, c'est l'alcool pur. Il y a comme ça des... L'appétit sensible est lié poisson, aliment. Il faut déterminer ça, il faut être lucide là-dessus. Je suis complètement insensible à l'huile. Je suis complètement au contraire au beurre. Alors là, je ferais tout pour un morceau de beurre. On aurait le couteau qui servirait pour le beurre, servirait à attaquer le voisin pour au moins que le morceau de beurre soit là. Et le morceau de beurre doit être à la taille particulière. C'était le père, je sais plus quel père dominicain qui disait « Le beurre est aux hommes du Nord ce que l'huile est aux hommes du Midi, du Sud. » On voit très bien les analogies comme ça. C'est intéressant du reste à voir ça. Parce que ça montre qu'il y a quelque chose de relatif. Ça s'éduque. L'appétit sensible s'éduque. Et alors, la jouissance consiste à s'attarder. À être gourmand. On s'attarde. C'est pas le gourmet. Le gourmet aime bien ce qui a une certaine finesse, mais il dédaigne la quantité. Tandis que le gourmand, la quantité joue beaucoup. Alors, il y a la tempérance, qui est une vertu cardinale, hein, donc une vertu fondamentale. Vous ne pouvez pas être chaste si vous n'êtes pas tempérant. Ça, il y a des domaines différents. C'est pour ça que j'insiste. L'appétit sensible, puis l'appétit sexuel. Oui, l'appétit sensible regarde l'individu. Et pour Aristote, l'appétit qui regarde le point de vue de l'union sexuelle, regarde ça, le point de vue, alors c'est l'espèce. Donc cet appétit sexuel s'enracine dans l'espèce. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Mais c'est deux rythmes différents. Et l'appétit sexuel, donc, qui va regarder le point de vue de la jouissance, là encore, la jouissance individuel, on n'aime pas l'autre pour lui, on l'aime pour nous, pour la jouissance qu'il peut donner. Et alors c'est cette jouissance personnelle, individuelle, qui regarde non plus le point de vue de l'aliment et de la boisson en premier lieu, mais qui regarde l'union sexuelle des deux. Là, on est seul avec l'aliment. Là, on est toujours deux. Alors ça, c'est l'appétit sexuel avec tout ce que ça regarde comme appétit qui, normalement, cet appétit sexuel est ordonné à l'union sexuelle pour la fécondité. Pour la fécondité. Et elle est légitime dans le mariage. En vue de la fécondité. Et on essaiera par tous les moyens de séparer le point de vue de la fécondité de la jouissance. La vertu de chasteté consiste à dominer tout cet instinct. Je dis l'appétit sexuel, on le parlera aussi de l'instinct. Tout cet instinct sexuel pour ne pas s'arrêter aux jouissances et rectifier l'appétit dans le sens où il doit être. Là, c'est le point de vue de la chasteté, la vertu de chasteté qui est liée à la vertu de tempérance. Et la vertu de virginité, qui sera plutôt l'esprit de virginité, ira plus loin que la vertu de chasteté. La vertu de chasteté implique une domination de tout ce que représente l'appétit sensuel qui est en nous. Oui, sexuel, sensuel. On pourrait dire ça aussi. En vue de l'union des corps. Parce que le point de vue de l'union sexuelle, c'est l'union des corps, des deux. Pour la fécondité. Alors c'est l'union sensible du toucher qui va impliquer le point de vue de la jouissance et la chasteté va faire que on respectera, on voudra dominer ce point de vue sensuel pour garder une limpidité plus grande d'un amour spirituel. Et l'esprit de virginité poussera la vertu de chasteté jusqu'au bout, pour que notre cœur, au niveau spirituel, ne soit pas entaché et gardera sa limpidité. Donc l'esprit de virginité va plus loin que le point de vue de la vertu de chasteté. C'est une exigence plus personnelle. Et plus spirituel. Un homme peut être chaste, de vertu chaste, et manquer d'esprit de virginité. Et quelqu'un peut avoir un esprit de virginité très poussé et lutter pour la vertu de chasteté. Vous voyez ? Pas tout à fait les mêmes points. La chasteté lutte contre les passions pour que notre appétit sensuel reste dominé. Que de fait, on ne veuille pas de jouissance sexuelle en dehors de l'union sexuelle. Donc en dehors du mariage. C'est ce qu'on appellera la chasteté, la vertu de chasteté. Cette vertu de chasteté, pour être parfaite, implique l'esprit de virginité. Et on dira que souvent la chasteté parfaite ne peut être vécue que grâce à l'esprit de virginité, qui lui-même ne peut être parfait que grâce à la contemplation. Alors là, c'est très important de voir ces niveaux, tempérance, chasteté, esprit de virginité. Avoir un peu de lucidité sur ces trois domaines. Tempérance, c'est facile. Puis il y a toujours l'œil du voisin qui dit, mon vieux, comme tu te sers. Hein. Mais c'est évident. La chasteté, là, du moins l'esprit, la vertu de tempérance, c'est assez relatif. On s'en aperçoit assez vite. Dans le boire et le manger. La chasteté, c'est déjà beaucoup plus personnel et individuel. Et c'est très individuel. Les appétits sensuels sont extrêmement individuels. Si vous aviez un grand-père très noceur, ben les dents des petits-fils en sont agacées. Ça, c'est sûr. Si vous aviez au contraire un grand-père très vertueux, il y a quelque chose qui s'affine. Il y a un affinement, voyez, de l'appétit sensuel. C'est un affinement qui se fait progressivement au point de vue culture. Et l'affinement de la chasteté, c'est l'esprit de virginité. C'est la consécration de tout notre être, notre cœur spirituel, notre âme spirituelle et notre corps. C'est la consécration à Dieu. Pour être tout entier relatif à Dieu. Donc un dépassement, voyez, c'est plus seulement la lutte pour dominer, c'est un dépassement. Un dépassement à l'égard de tout ce que représente l'appétit sensuel. Tout ce que peut représenter la jouissance corporelle. Pour être, comme dit saint Augustin, vivre comme des anges. Ayant un corps. Je crois qu'il faut aller plus loin. C'est pas seulement vivre comme des anges. Vivre comme des anges, ce serait juste au niveau de la morale religieuse. Et au niveau de la morale chrétienne, on dira vivre divinement au milieu du monde, avec un corps qui a toujours un appétit sensuel qui est lié aux passions. Donc, lié à l'imagination, les passions. Les passions sont ici et les passions sont là. Et ce n'est pas les mêmes passions. C'est les mêmes fondamentalement, mais l'exercice de ces passions et l'éveil de ces passions est différent.